toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de ce nouvel À l'air livre, le premier de 7 ans 9. Ce mois-ci, comme cela arrive de temps en temps dans cette émission, c'est non pas avec un écrivain que je vais m'entretenir durant 7 heures, mais avec un libraire, éditeur, une association assez rare de nos jours, mais il y en a quelques-uns comme ça en France, et en particulier à Marseille, dans le quartier des Réformés. C'est en effet avec Jacques Aubergy, créateur de la collection Latinoir, L'apostrophe Atinoir, Latinoir, créée en 2007, hébergé aux éditions Les Cahiers du Sud, est devenu aujourd'hui une maison d'édition à part entière. Je retrouve Jacques Aubergy dans la librairie Les Cahiers. Il nous dit sa passion du livre, du roman noir, en particulier latino-américain, mais pas seulement, on va l'entendre.
Jacques Aubergy, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans ce petit local librairie rue Barbaroux qui existe depuis une petite paire d'années.
Comme librairie, mais comme librairie. Local de maison d'édition depuis 9 ans à peu près, puisque c'est le local dans lequel est née la maison, enfin, où s'est installée la maison d'édition Les Cahiers du Sud. À l'époque, on ne savait pas qu'on pouvait faire de l'édition avec un simple ordinateur, donc François Tomaso, Patrick Coulon, Michel Martin Roland ont cherché un local, pensant qu'il leur faudrait téléphone, secrétaire, opinion sur rue. Puis finalement, bon, c'est devenu un local de dépôt, de stockage, ouais. Voire un débarras. Il y a 2 ans, on a décidé d'en faire une librairie plutôt spécialisée dans le roman noir. Ouais. Policier.
Et vous êtes arrivé quand ?
Moi, je suis arrivé à Les Cahiers il y a 4 ou 5 ans avec la traduction d'un livre d'un auteur mexicain. Je connaissais un peu Patrick avant. Et puis, voilà, je ne sais plus comment on s'est rencontrés. On a parlé de ça. Ça les intéressait de publier de la littérature noire, policière, étrangère. Il l'avait déjà fait, d'ailleurs, avec Verissimo, McLaren. Enfin, ils avaient déjà 3-4 titres de littérature étrangère. Bill Ponzini. Et donc, voilà, j'ai amené un bouquin. Et puis, je suis rentré, moi, du Mexique il y a maintenant 3 ans. J'avais l'idée de créer une petite librairie, un petit local. Je ne pensais pas que ça serait aussi petit que ça, mais bien plus grand. Consacré à la littérature. Moi, je préfère appeler ça littérature noire que policière. Limite un peu la définition, qu'on en aura peut-être plus tard, si tant est qu'il y en ait une. Et puis, là aussi, littérature latino-américaine que je connais un peu, traduite ou éventuellement en langue originale, c'est-à-dire espagnol ou portugais. Ouais.
Alors, beaucoup de choses là, j'ai envie qu'on s'attarde un petit peu sur tous ces points là, ouais. Votre arrivée du Mexique, ouais. La collection, l'édition, la librairie. Peut-être qu'on va rester un petit peu dans la description de cette librairie. On a entendu tout à l'heure, on vous a entendu un petit peu, avant de commencer cet entretien, décrire la librairie à un client qui est entré pour la première fois ici.
Ouais.
Et on a compris tout de suite qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses, pas que du polar, pas que du roman noir, même apparemment, il y a aussi des envies personnelles que vous avez placé ici dans les rayonnages.
Oui, une partie des envies personnelles, parce que comme l'endroit il y a peu de volume, mais c'est vrai, j'ai pratiquement mis un peu de tout ce qui me plaît. Au-delà du fond principal qui est donc le polar et le roman noir, donc littérature nord-américaine, littérature latino-américaine, bien sûr, de la poésie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. De la bonne littérature sur Marseille, ça existe. Alors je parlais tout à l'heure à ce client de Banjo, mais ça peut être aussi l'histoire universelle de l'Anville en 2000 d'Alès et de l'Ombrien. Enfin bon, il y a voilà, c'est le genre de choses que nous avons et qui côtoient d'autres choses qui, pour le grand public, sont en principe plus marseillaises. Ouais. Ouais, mais on a aussi ça. On a comme voisin un éditeur que j'admire beaucoup, qui est Agone, donc on a une bonne partie de la collection d'Agone.
Ouais. Vous savez combien vous avez de titres ?
On a, sur le polar noir proprement dit, on a à peu près 3000 titres. Ouais. Alors, il se trouve qu'on est aussi heureusement aidé par le local mitoyen que l'on colloue et qui nous permet de stocker, ouais. de faire les mouvements nécessaires lorsqu'on a des signatures, parce qu'ici, ça serait impossible. Vous savez, c'est un métier, le métier de libraire, qu'on découvre tous les jours. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine, si ça vaut la peine, mais malheureusement, je pense que c'est un métier qui risque de disparaître. Mais en même temps, on le découvre. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. C'est difficile de ne pas faire ce métier sans une certaine nostalgie, parce que pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, j'ai quand même l'impression qu'il va, à mon avis, sinon disparaître, il va être chaque fois plus réduit, quoi. Il y aura de moins en moins, à mon avis, de vrais libraires et de plus en plus des vendeurs de livres. On a l'exemple des États-Unis où je me souviens, dans des villes comme Denver, Kansas City, et d'autres, hein, mais c'est deux qui me viennent à l'esprit, il y avait encore, il y a 7-8 ans, des vendeurs des librairies comme on les conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de petits libraires de livres neufs, il n'y a même plus de libraires de livres anciens qui ont subsisté jusqu'il y a 2-3 ans, et tout est récupéré par Barnes & Noble. Voilà quoi. Alors, je me demande si cette moyenne. Alors, je crois qu'il y a, tout au moins, je parle de la France là, une possibilité, et je m'adresse un peu à eux, c'est que les libraires moyens, c'est-à-dire les gens comme Soran à Montpellier, mon petit ici, sont dans une taille moyenne, donc qui ont des possibilités de volume, l'achat, la présence. Pourront certainement, j'espère, résister. Mais je pense que pour le petit, même spécialisé, c'est extrêmement difficile, parce que toutes sortes de dangers guettent, et le premier, par exemple, en centre-ville, les coûts fonciers. Quoi.
Oui, et c'est l'avantage justement que vous avez ici aussi. Alors, d'être dans un local qui n'est pas qu'une librairie.
Voilà, parce que c'est aussi, exactement. On a des avantages qui, à mon avis, j'ai souvent des jeunes qui sont étudiants dans les métiers du livre à Aix et qui viennent ici pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on fait. Je ne veux pas les décourager parce que c'est tellement une belle vocation, mais en même temps, je veux absolument qu'ils connaissent la dure réalité de la chose, parce que c'est extrêmement difficile. Quoi. Financement, début, et puis après, il faut vivre, il faut vendre. Bon, voilà.
Alors là, les éditeurs fondateurs de Les Cahiers du Sud vous ont fait confiance quand même. Ils se sont dit au départ, oui, allons-y, transformons ce local en librairie. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé de cette façon-là, oui, effectivement. Bon, on se connaissait. Vous savez, Les Cahiers, c'est une bande de copains dès le début, avec, comme ils le disent eux-mêmes, un esprit rock'n'roll, des gens qui n'ont jamais voulu trop se prendre au sérieux, même si leur affaire est devenue une très belle chose. Ouais. Enfin, il y a 120 titres aujourd'hui. Ce sont des éditeurs à part entière, connus et reconnus, mais qui ont gardé ce qui leur vaut quelquefois quelques inimités de la part des gens de la profession, mais je pense qu'ils ont su garder cet esprit qu'ils avaient dès le début, c'est-à-dire faire les choses, essayer de faire les choses sérieusement, sans trop se prendre au sérieux. Il faut savoir qu'ils ne vivent pas de ça, bien sûr, et ils n'ont pas que ça pour vivre, fort heureusement d'ailleurs, et donc c'est une question de disponibilité de temps. Moi, je suis un peu apporté au niveau de la maison d'édition, sur des détails, sur disons 10-15% de l'activité, une aide, mais c'est pas suffisant, quoi. Je crois qu'aujourd'hui l'affaire du livre, je préfère le comme ça, que le métier du livre, est quelque chose qu'il faut que l'on s'y consacre à 100%, et c'est très dur pour les petites maisons d'édition qui sont indépendantes, bien sûr. Ces indépendances coûtent très cher. Ils s'en tirent très bien pour le moment, j'espère que ça durera longtemps. Alors, revenant sur la librairie, François Tomaso avait déjà assumé son plaisir et son goût de devenir libraire en mettant de l'argent dans une librairie à Paris, dans le 15e arrondissement. Il voulait faire la même chose à Marseille. En fait, ça s'est fait, vous savez, comme souvent les choses, très simplement. Moi, et avec François d'ailleurs, on cherchait un local, et puis ils ont tout de suite pensé à celui-là. Je me suis aperçu qu'en l'aménageant un peu, ça pouvait devenir un endroit sympathique. Et voilà, c'est parti comme ça, et ça s'est fait comme ça. Voilà.
Alors, aujourd'hui, vous êtes là souvent, toute la journée,
quand je suis à Marseille, ouais, je suis là du mardi au samedi, toute la journée. Ouais.
Et vous voyez circuler un petit peu de monde quand même qui vient vous voir. Il y a une clientèle qui s'est faite peu à peu, qui vient vous voir essentiellement pour les polars, ou est-ce qu'ils savent que justement on peut trouver d'autres choses ici ?
Au début, c'était plutôt des gens qui venaient, compte tenu de la communication assez conséquente qui s'est faite sur les cahiers, librairie de les cahiers du Sud, pour la Marseillaise, ce qui est d'ailleurs pas très juste, qui n'est pas juste du tout, parce que je reviens encore 5 secondes sur la maison
d'édition.
Les cahiers du Sud, c'est 30% de livres écrits par des Marseillaises ou des Marseillais ou se passant à Marseille. Il y a même une collection qui s'appelle Les Cahiers du Nord, il y a l'Over Littérature d'Agile Ascaride et Henri Frédéric Blanc qui n'a rien à voir avec le polar. Mais bon, c'était à l'époque de la mode ISO, donc dans l'opinion, les médias, la communication, les cahiers du Sud, c'est polar marseillais, ce qui n'est pas vrai, enfin ce qui n'est pas juste, ou pas tout à fait vrai, ou très peu vrai, plus exactement. Et donc, j'ai eu effectivement au début plutôt des gens qui venaient pour chercher du roman policier, du roman noir, ce qui m'a obligé à spécialiser un peu le fond et ne pas trop aller vers la nouveauté, puisque la nouveauté on peut la trouver dans toutes les librairies, et avoir du fond, c'est-à-dire ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, il est rare de pouvoir trouver 25 ou 30 livres de James Ellroy dans une librairie. Je les ai, les tailles, bon, pour d'autres raisons, mais aussi parce que je les ai aussi. Bonjour.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Bonjour. Vous êtes en entretien ?
Oui.
Je repasse.
Comme tu veux, ouais. Tu es là, pardon.
Ouais.
D'accord.
Ciao.
Et donc, je me suis dit que finalement, les clients qui achètent du roman policier et du roman noir, souvent, et presque toujours d'ailleurs, ne lisent pas que ça. Donc, avoir de la littérature nord-américaine traduite, ou en anglais, puisqu'il y a des livres en anglais, de la littérature latino-américaine traduite et en espagnol ou en brésilien, c'était aussi intéressant. Et puis, j'ai découvert une chose très agréable, c'est que finalement, on est à la limite du centre-ville et de quartier, enfin d'un premier quartier. Enfin, il y a plusieurs quartiers là, il y a Libération, Consolat, Longchamp, Cour-Joseph-Thierry, rue du Coq, etc. Enfin, ouais. ce sont des quartiers très marseillais, qui sont des micros, on a l'impression que c'est la même zone, mais il y a plusieurs, d'ailleurs on le voit quand chacun fait une animation, c'est où la rue Consolat, c'est pas le coup. C'est très intéressant. En fait, toujours est-il que dans ces quartiers-là, il y a une population très intéressante pour un libraire, parce que ce sont des gens qui, comme je le dis, achètent des livres et les lisent. Ouais. Donc, on pense immédiatement à Bobo, pas du tout, c'est plutôt bon, profession libérale, des retraités, des enseignants, voire cadres, des jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Jeunes arrivants aussi, des jeunes qui viennent de s'installer à Marseille, qui trouvent ce quartier sympathique. Mais ça va très loin, hein, ça peut aller jusqu'au Chartreux, ça peut aller jusqu'au boulevard national, Belle de Mai. Et donc là, petit à petit, j'ai pu me constituer une petite clientèle de libraires de quartier. Donc ouais. Il m'arrive de passer des commandes de bouquins. Là, j'ai une cliente qui m'a commandé pour les fêtes 4 livres de Jacqueline Roby, quoi. On n'a rien à voir avec.
Oui, donc il y a une vraie clientèle de quartier que vous avez.
Exactement, qu'on a pu constituer peu à peu et qui est intéressante. Alors, sur la clientèle principale, si j'ose dire, ce que j'ai découvert, c'est que généralement, les gens sont pas trop exigeants, parce que moi, je suis venu très tard à ce genre-là. Que j'admire tellement que j'ai des scrupules à appeler ça un genre, parce que je crois que c'est une littérature tellement universelle que, surtout en France où le terme genre, la dénomination ouais. genre est toujours terrible, quoi, et très négative. Je me suis aperçu que ces gens-là sont souvent assez érudits en littérature, assez savants sinon érudits, et qu'ils sont précieux parce qu'ils recommande des choses qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui. La production est telle qu'il est difficile de tout lire. Bon, moi, personnellement, j'ai pas mal de retard. Parce que vous savez, dans la littérature policière, il y a des gens qui disent ça depuis qu'ils ont 16-17 ans et qui ont une connaissance absolument. C'est les pics de la Mirandole, quoi. Donc, il est difficile de pouvoir lutter avec ces gens-là. Et il faut savoir les utiliser un petit peu comme conseil, ce qu'ils font très volontiers. Voilà, du coup, on apprend des choses.
Oui, vous apprenez autant que...
Oui, bien sûr. Ah oui, oui, moi j'apprends énormément de choses, parce que, je vous dis, encore une fois, on ne peut pas tout connaître. Il y a, c'est vrai, une certaine capillarité hein, dans le roman noir, parce que, bon, il y a des mouvements, il y a des styles, il y a des périodes, mais c'est tellement dense qu'on ne peut pas tout savoir. Là, actuellement, avec le foisonnement de la littérature scandinave, du noir scandinave, c'est considérable. Et on découvre énormément de choses. Bon, il y a, au-delà de Mankell et Larson, il y a vraiment une bonne vingtaine de très très bons auteurs qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont excellents.
Et alors justement, dans ces courants et dans ce phénomène de capillarité, est-ce que entre le roman policier, le roman noir et les autres ouvrages que vous présentez ici, que vous affectionnez particulièrement, est-ce que vous avez vos propres courants souterrains ou sous-marins et vos propres lignes de force?
Ah oui, moi j'ai horreur de ce terme de coup de cœur. Moi je préfère dire coup de chapeau, je trouve que c'est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus respectueux et moins marchand, quoi. Donc j'ai effectivement comme ça, pas beaucoup, une demi-douzaine d'auteurs. Alors des auteurs que je connaissais pas et que j'ai découvert grâce au roman noir. Alors, pour les Français, c'est par exemple Jean-François Villard, que je trouve vraiment un homme de lettres accompli, quoi, hein, qui a une écriture, qui a une invention, une inventivité littéraire absolument remarquable, qui est de son temps, qui a un seul défaut, c'est qu'il n'a pas écrit beaucoup de livres. Voilà. Et sinon, après j'ai découvert aussi un auteur américain qui s'appelle James Salis, qui est un personnage assez extraordinaire, qui est blanc, mais qui écrit sur la négritude, qui est originaire de l'Arkansas, mais qui écrit sur la Nouvelle-Orléans comme s'il y était né, qui est traducteur de Queneau, Sandrars et Gijavik à l'anglais, et qui a inventé un personnage assez extraordinaire, bon, qui pourrait au départ être conventionnel. Il s'agit d'un noir qui vit dans une communauté de la Nouvelle-Orléans, qu'on vient toujours chercher parce qu'il est dégourdi et costaud, et qui, par la force des choses, devient une espèce de privé. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il a une véritable passion. Il est bien sûr autodidacte, et cette passion, c'est la littérature, et il va devenir écrivain. Donc ça permet à l'auteur d'écrire et de narrer des choses qui ont des références littéraires sans prise de tête, et sans tomber non plus dans les récurrences habituelles du polar tel qu'on croit le connaître.
James Salis. On peut trouver ça où?
On peut trouver ça chez moi, bien sûr. Il est publié, il a un livre chez Rivage et tous les autres chez Gallimard, dans la Noire. Il est aussi auteur, pour ceux qui aiment, qui éventuellement ne me suivraient pas, mais là je crois qu'ils me suivront, ceux qui sont des admirateurs de Chester Himes, qui est aussi un auteur évidemment, alors celui-là je ne l'ai pas découvert, je le connaissais, un véritable monument qui est une biographie de Chester Himes écrite par James Salis chez Rivage. J'ai découvert aussi une femme norvégienne qui s'appelle Annie Holt, Karim Fossum, autre norvégienne. James Lee Burke, encore un auteur américain, très célèbre lui par contre, c'est moins le cas de James Salis. Récemment, c'est grâce à un auteur que je publie. J'ai découvert un auteur qui s'appelle Miles, je ne me souviens plus du premier prénom, enfin le nom c'est Williamson, qui a fait un livre absolument remarquable, qui s'appelle Noir Béton, sur la société américaine des années 70, d'une dureté, enfin là on dépasse le domaine du noir, quoi, hein, c'est très dur, très fort, et en même temps très humain. Mais vous savez, c'est difficile de. J'ai toujours du mal à citer comme ça, parce que je m'aperçois après que j'ai oublié de parler d'un tel et un tel, et de récentes découvertes. Alors je vais quand même parler d'un auteur de Les Cahiers qui me paraît. Tous me paraissent bons, bien sûr, mais celui-là me paraît vraiment excellent. C'est un jeune auteur qui s'appelle Thomas Labatte, qui a fait trois livres chez nous. Trois livres différents d'ailleurs, le premier qui s'appelle Ray, qui est un peu gore, le deuxième qui est très très policier, qui a surpris d'ailleurs des gens de la police par sa précision, son sens de la connaissance de la pas d'erreur quoi
système de
système de technique très informé. Bon, c'est un gars qui a rien à voir avec la police parce qu'il a été éducateur dans les cités, il est chanteur d'un groupe de rock, donc quelqu'un qui est plutôt certainement plutôt rebelle que proche de la police, mais qui a su s'informer pour ne pas écrire de bêtises, c'est important. Et le troisième, c'est un livre qui n'a rien à voir avec, on sort complètement du policier ou du noir, c'est un truc c'est un peu étrange qui s'appelle L'État. Je le recommande, Thomas Labatte. Et en plus, on peut le lire et l'écouter, puisque je le répète, il est chanteur d'un groupe de rock.
À l'air livre, Pascal Jourdana,
Jacques Aubergy.
Voilà. Alors, on reviendra à la partie édition tout à l'heure, hein, ce que vous faites,
ouais.
Les cahiers, mais
ouais.
Je voudrais revenir sur votre propre parcours.
Ouais.
Comment, alors là, on a bien compris depuis que la librairie existe, comment elle s'est créée, comment elle s'est constituée, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Vous étiez au Mexique,
ouais.
Mais j'ai l'impression que vous avez pas mal voyagé.
Ouais.
Et voilà, comment est-ce que vous êtes arrivé à finalement à vous installer ici, à Marseille, à avoir cet amour des livres si fort que finalement vous avez créé cette librairie. Enfin, parlez-moi un peu de votre propre parcours.
Bon, mon parcours, bah écoutez, il est pas très original pour ma génération, quoi. Je viens d'avoir 61 ans, donc j'ai vécu 68 force de l'âge,
au moment où il fallait,
j'étais plutôt du côté des rebelles, j'étais même pas plutôt, j'étais complètement du côté des rebelles, et puis la déception faisant ce qu'elle a fait pour beaucoup d'entre nous, je faisais études de droit et sciences politiques, et puis j'ai finalement tourné, je suis rentré, comme on disait, je sais pas si on le dit encore, dans le privé, j'ai fait une carrière dans des grandes sociétés et dans un métier qui m'a permis de garder un contact et de garder le sens de l'humanité, c'est la restauration collective, que j'ai connue à une époque où on faisait de l'artisanat, même dans les grandes sociétés, donc beaucoup de contacts avec les comités d'entreprise. Et puis une réalité humaine absolue, quoi, hein, la bouffe, c'est quelque chose, la bouffe et le social en même temps. C'est quelque chose qui est qui peut être assez riche.
Vous étiez où à cette époque?
Alors, j'ai commencé à Marseille,
ouais.
J'étais à Montpellier, à Toulouse, à Nice, et puis je suis parti ensuite en Espagne, en Argentine, au Venezuela et au Mexique, ouais. Où je suis resté 12 ans. Alors au Mexique, j'ai fait ça pendant 5 ans, et puis après, l'année de mes 50 ans, comme je commençais à avoir de plus en plus de mal à vivre cette vie de l'initiative privée, comme on dit là-bas, de l'entreprise qui devenait de plus en plus quelque chose organisé et aux mains des hommes de finance et de marketing, j'ai décidé de m'arrêter, de sortir de ce milieu-là et de créer moi-même ma propre entreprise, pensant que mes enfants auraient besoin de ça, ce qui n'a pas été le cas, et donc de trouver une certaine liberté pour pouvoir faire un peu avant l'âge de la retraite, puisque j'avais 50 ans, ce que j'avais envie de faire, et j'ai commencé à le faire dans ces années-là, c'est-à-dire me tourner vers le livre. Alors, en traduisant, et puis en organisant un prix littéraire qui s'appelle Antonin Artaud, créé maintenant il y a 6 ans au Mexique, avec une idée un peu amusante, un peu originale. C'est quand on est à l'étranger, là à l'époque j'étais encore dans le milieu de l'entreprise, bon, avec de nobles desseins, on veut toujours apporter ce que le pays, pas seulement les Français, hein, les Allemands, les Italiens, tout le monde fait ça, peut avoir de bon pour le pays qui vous a accueilli, dans lequel ouais. vous faites du business. Et quelquefois, vous faites plus que du business, hélas. Bon. Donc, m'est arrivée l'idée, grâce à un ami cuisinier d'ailleurs, de créer un prix littéraire, comme les prix littéraires français, bon, on pourrait même dire parisien, qui n'existe pas, tout au moins en Amérique latine. En Amérique latine, il y a des prix littéraires, mais c'est souvent des prix d'éditeurs ou des concours. Mais cette chose très belle au départ, très originale, de donner la chance à un livre, de la façon la plus subjective qui soit, parce qu'un jury, c'est forcément subjectif, mais de dire, tiens, 12 personnes se réunissent, 12 personnes avec une certaine représentativité dans le monde de la littérature, vont dire c'est le livre qui m'a le plus plu cette année, ce qui veut dire, entre autres, qu'ils peuvent se tromper. Je trouve ça très bien. Le drame, c'est que maintenant, vous savez de quelle façon ça se passe. Donc on dit, quand on annonce ce prix, on le dit toujours, c'est un prix à la française, mais sans les turpitudes. Alors, jusqu'à présent, ça fait 6 ans que ça existe, il n'y en a pas eu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a du côté mexicain. Enfin, c'est un prix mexicain. Hein, ouais, donc, c'est pas forcément un auteur mexicain. C'est un auteur qui écrit en espagnol, dont le livre a été publié au Mexique dans les 12 années qui précèdent le mois de septembre de l'année en cours, c'est-à-dire entre septembre de l'année précédente. Les 12 mois qui précèdent le mois de septembre de l'année en cours. Voilà. Et effectivement, on a bien fait de lire ça parce qu'on a primé il y a 2 ans un Italien, d'origine italienne, qui est arrivé au Mexique, il avait 14 ans et qui écrit aujourd'hui en espagnol. Donc on a dit écrit en espagnol et ce qu'on appelle en espagnol la narrativa, c'est-à-dire de la prose de fiction, de la fiction en prose plus exactement. Donc conte, nouvelle, roman. Et ce qu'on a pensé aussi, c'est que, évidemment, puisqu'on était plutôt français, il y avait quelques français dans l'histoire, on allait faire en sorte qu'il y ait une partie française. Donc on a pensé à porter au-delà de la valeur qui est remise, c'est-à-dire une somme d'argent, un trophée, un superbe stylo Mont Blanc, puisque Mont Blanc est un des mécènes, je dis bien mécène et pas sponsor. De donner 2000 euros à un éditeur français qui voudrait traduire le livre pour faciliter sa publication. Bon, jusqu'à présent, c'est bien passé, puisque les 6 livres, soit parce que les auteurs qu'on a choisis étaient déjà publiés en France, soit parce que les éditeurs, évidemment, ont trouvé que c'était une bonne chose, et 2000 euros pour aider à la traduction, c'est toujours ça de prix.
Alors, qui est-ce qui a été...
Alors, jusqu'à présent, nous avons 6 auteurs qui ont été les 3 premiers, dont le premier a été publié chez Plomb. Un type qui s'appelle Alvaro Uribe, qui a un homonyme célèbre, mais lui est écrivain. Le deuxième, c'est un Mexicain qui était à Marseille en septembre, c'est septembre ou octobre, je ne sais plus, pour lire en fait, Fabrizio Mejía Madrid, publié chez Harmonia Mundi, Les Abusifs, distribué par Harmonia Mundi. Le troisième, c'est David Toscan, qui va être publié en janvier chez Zulma, le dernier lecteur. Le quatrième, Fabio Moravito, ce sont des contes qui seront publiés chez José Corti. Le cinquième, Juan Biglioro, qui a déjà 2 livres traduits, qui lui sera publié chez De Noël. Et la sixième, parce que cette année nous avons primé pour la première fois une femme, Guadalupe Nettel, qui est déjà publiée chez Actes Sud et qui sera publiée aussi chez Actes Sud. Voilà.
Donc c'est un beau palmarès.
C'est un beau palmarès parce qu'il est assez représentatif de la littérature, jusqu'à présent, plutôt mexicaine que latino-américaine, mais on a sélectionné César Ayra, qui est un auteur argentin important, le Vallejo de la Vierge de Sicaire, qui est un Colombien, mais qui vit à Mexico. Il nous est arrivé de sélectionner des auteurs assez célèbres, mais qui n'ont pas forcément gagné. Alors, il n'y a pas de critères, si vous voulez, de jeunesse. C'est là aussi le prix qui doit être, enfin, le livre qui doit être, qui doit paraître au jury le meilleur, quoi. Autant que l'auteur peut être connu, peu connu, femme, homme, écrit en espagnol, comme je dis toujours, c'est ce qui compte, est bien écrit. Et le jury, je termine avec ça, parce que sinon, est composé du côté mexicain plutôt d'écrivains. Et du côté français, de traducteurs.
D'accord.
Bon, on a Gabriel Iaculli, qui est l'excellent traducteur de beaucoup de livres écrits en espagnol, et notamment de la réécriture, retraduction de Rulfo, Liano en flamme, comme il a très bien gardé, traduit en gardant le terme Liano, et Pedro Paramo. Et puis Annie Morvan, qui est la traductrice de García Márquez. Et puis après, j'avais aussi là au Mexique découvert, ou en même temps, sans doute c'est au Mexique que j'ai découvert la qualité et la valeur de ce qu'on appelle le genre noir, d'ailleurs en espagnol ça s'appelle comme ça, genre noir, avec d'abord Osvaldo Soriano, qui est une espèce de manchette, on pourrait dire, qui est un créateur du nouveau policier en Argentine. Mmh. Évidemment, au Mexique, c'était pas compliqué de rencontrer Paco Ignacio Taibo, mmh. qui est le même genre de personnage pour le Mexique. D'ailleurs, la traduction que j'avais faite pour les cahiers a une préface de Paco. C'est un de ses auteurs un auteur qui est un de ses grands amis, qui s'appelle Juan Hernández Luna. D'ailleurs, on n'a fait aucune découverte parce que l'Atalante, la maison d'édition de Nantes, qui est aussi libraire d'ailleurs, qui est aussi librairie, avait déjà publié deux livres de Juan Hernández Luna que je recommande, Tabac pour le Puma et Le Corbeau, enfin, un livre très très intéressant aussi. Et celui de Les Cahiers s'appelle Naufrage. Donc, j'ai commencé à traduire des livres comme ça, et je me suis dit qu'après tout, c'était très compliqué la traduction. Enfin, la relation de l'auteur, traducteur, éditeur, c'est très compliqué. Puis je me suis dit que si jamais je commençais à faire ça, j'allais être obligé peut-être de traduire des choses dont j'avais pas envie. Oui. Et ça, je pense, ça va être redoutable. Je le comprends, hein, je le conçois. Quand on vit de ça, comme de n'importe quelle autre chose, il faut bien faire ce que l'on peut pour gagner sa vie. Et donc, je me suis dit, après tout, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis de plus en plus tranquille et libre. Ben, je vais lancer une collection, une maison d'édition. Et en discutant avec les amis de Les Cahiers, ils m'ont dit, ben, écoute, pourquoi tu ferais une maison d'édition ? Fais une collection chez nous. Ce que j'ai fait.
Voilà.
Qui s'appelle Latinoir. Alors, depuis 2 mois, pour des raisons de distribution, très compliquées à expliquer et sans aucun intérêt, la collection est devenue maison d'édition à part entière. C'est-à-dire que ce n'est plus une collection de Les Cahiers, c'est une maison d'édition. Mais évidemment, il n'y a aucune. Je reste tout à fait dans le giron de Les Cahiers, comme libraire bien évidemment, comme ami, et puis on fera certainement des passages d'une maison d'édition à l'autre.
Alors Latinoir, L'apostrophe.
Alors l'apostrophe, L'apostrophe, c'est un. Ça je dois ça. De la même façon que je dois la rencontre avec Juan Hernández Luna et Paco. Hein. Et dans la vie, on oublie souvent de citer des gens grâce à qui on réussit. Moi, souvent, ça m'est arrivé de réussir des choses sans que ce soit grâce à moi, mais grâce à d'autres. Et là, en l'occurrence, c'est une représentante d'Harmonia Mundi qui, à l'époque, distribuait Les Cahiers, à qui je m'étais confié de l'idée que j'avais de monter une maison d'édition, qui me dit « Ouais, je suis persuadé que ça peut nous intéresser. » Et j'avais pensé faire quelque chose qui serait noir polar, qui s'appellerait latin noir, et quelque chose qui serait latin noir. Donc, un mot, lorsqu'on le sort du contexte, atinoir, un atinoir, lorsqu'on le voit tout au moins, sinon lorsqu'on l'entend, ça peut pas forcément être latin et noir. Et elle me dit, écoute, latin noir, le noir, le polar, ça commence à. Tu devrais tout faire avec latinoir, et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, latinoir, ça ne veut rien dire, c'est un mot que j'ai complètement inventé. Je vous mets au défi de trouver dans le Littré, le trésor de la langue française du CNRS, une définition. Il y a quelqu'un, un homme de culture, qui à Marseille m'a soutenu que ça voulait dire quelque chose, soi-disant ce serait une espèce de cassolette dans laquelle mettaient les alchimistes certains grimoires, mais c'est, j'assure, c'est faux.
ce serait beau.
Oui, c'est pas mal, ouais, mais c'est pas ça du tout. Et donc voilà. Alors, moi, j'avais pas du tout pensé à latin noir. Enfin, si, il y avait latin et noir, mais latin noir, c'était justement pour faire autre chose. Et je crois que dans l'inconscience, ou l'inconscient plutôt, il y a un verbe espagnol, atinar, qui veut dire viser juste. Et je pense que c'est plutôt ce qui a dû me pousser à trouver ce mot-là. Et voilà. Et d'ailleurs, du coup, je viens de lancer une deuxième collection, enfin, une collection maintenant chez Latinois, un petit format, qui là va plutôt s'orienter sur des textes qui ne sont pas des textes de fiction, qui s'appellent Latineur.
Voilà. Alors, il y en a un là.
Il y en a deux qui sont sortis. Alors, Exilio, un très beau texte qui m'a été proposé par une dame de théâtre qui a travaillé toute sa vie sur le théâtre et la mémoire, qui a écrit qui a écrit un texte, plus exactement, pour le théâtre, à partir de lettres de réfugiés espagnols dans les camps de concentration, appelant les choses par leur nom, qui se trouvaient de l'autre côté de la frontière, entre Perpignan et la frontière espagnole.
Donc en Argelès et tout.
Argelès, exactement, exactement. Et des témoignages. Et elle avait écrit ça pour le théâtre. Elle me l'a présenté et je lui ai dit, écoutez, moi ça me plaît beaucoup, mais je ne veux pas publier du théâtre, réécrivez-le. Elle l'a écrit. Elle l'a réécrit plus exactement. J'ai trouvé ça très bien, très beau même, et je l'ai publié. Et le deuxième, alors c'est un texte que m'avait offert Taibo, qui est une espèce de livre d'histoire, un témoignage à partir de toutes les recherches qu'il avait faites sur une grève de locataires en 1920 à Mexico. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est la période, une période charnière, c'est pour l'histoire mexicaine, c'est la fin de la période insurrectionnelle de la Révolution, puisque vous savez qu'au Mexique, la Révolution est devenue institutionnelle, puisque le parti PRI s'est appelé comme ça. C'est assez intéressant. Il y a aussi un autre fait intéressant, c'est la création du Parti communiste mexicain, qui est un véritable groupuscule, et qui est apporté et soutenu par, on va dire, des mercenaires, parce que pratiquement, il y a un seul Mexicain dans l'histoire, tous les autres sont soit des Américains, un Indien, un Italien, etc. Voilà. Donc j'ai publié ce texte, qui d'ailleurs est un penchant, dans l'œuvre de Taibo, qui est un livre qui s'appelle Ombre de l'ombre, qui est un roman qui se passe exactement à cette période-là. Voilà.
Donc ça c'est une collection particulière et récente.
Il y a le reste de la collection qui existe maintenant depuis un an et demi. J'ai deux auteurs mexicains, un qui s'appelle Juan, dont on a déjà parlé, Juan Hernández Luna, qui a fait un livre qui est pas. Alors cette collection Latinoir, c'est une maison d'édition maintenant qui a de fortes références et un grand respect pour le roman noir, le genre noir, mais qui ne va pas faire que ça. Je me suis empressé d'écrire sur la quatrième de couverture Latinoir. Alors à l'époque c'était une collection, maintenant on met trois maisons d'édition largement consacrées au roman noir latino-américain, avec de possibles incursions dans tous les genres et d'autres géographies de la littérature. Donc le premier, qui s'appelle Almagre dans ses brumes, c'est un livre qui est dans lequel on pourrait dire qu'apparaît un tueur en série, mais ce tueur en série, c'est une espèce de saint laïque, un médecin qui vit dans au milieu des communautés indigènes, qui se bat contre les ONG et les marchands de folklore, qui préfère nourrir avec des aliments pour animaux, les enfants en manque de nutrition, plutôt que de leur donner des saloperies qui sont absolument, dont il sait que ça va les empoisonner, parce qu'il sait doser, il sait soigner. C'est un livre extrêmement touchant. Il y a aussi une histoire d'amour avec une jeunette très, très progressiste qui vit, elle, dans un quartier branché de Mexico, Coyoacán, le quartier de Frida Kahlo, et qui croit qu'elle va découvrir tout ce qu'elle imagine dans son quartier branché, c'est-à-dire le folklore, les hippies, les machins, les trucs, et elle découvre une réalité très dure, horrible. En plus, l'écriture est un peu faulknerienne, il y a un peu du Conrad là-dedans, j'ai trouvé ça très bien, voilà, donc j'ai publié. Il y a une préface de Taibo. Après, j'ai fait un livre de ce Juan Hernández Luna qui a toujours écrit du noir, du polar, et ça, c'est pas polar du tout. C'est un écrivain qui essaye d'écrire le roman dont il sait qu'il possède dans la tête, le cœur, les entrailles, les tripes, mais il n'arrive pas à le faire. En plus, c'est un fils de bonne famille qui a été déshérité par son père, donc qui vit dans une situation pratiquement misérable, et qui va arriver à subsister grâce au livre, et qui va un jour découvrir un manuscrit sublime, donc il se trouve avec le problème de savoir s'il doit... manuscrit qui pourrait très bien être anonyme, lui il sait à qui il appartient, enfin tout au moins de qui il vient, et est-ce qu'il va le publier ou est-ce qu'il va essayer d'écrire son roman. Bon, ça a quelque chose d'énigmatique, mais bon, pas du tout noir, quoi, pas du tout polar. Le troisième, alors par contre, c'est un Français, exceptionnellement, mais bon, c'est un auteur qui a fait une thèse sur Paco Ignacio Taibos, Sébastien Rites, un jeune professeur de littérature latino-américaine, qui a fait un roman qui ressemble un peu au feuilleton du 19e siècle. J'ai trouvé très intéressant parce qu'il part d'un fait réel. Les groupes anarchistes sont accusés en 1899, début de la Belle Époque, soi-disant, de piquer à l'entrejambe les cousettes et les mélinas dans les transports en commun pour récupérer le sang, parce qu'en principe le sang vierge est pur, et le vendre à des sectes chinoises qui vont faire qui sait quoi avec ça. Ils ont besoin d'argent, effectivement ils sont exsangues après la commune, faire Dreyfus, etc. Ils ne sont absolument pour rien prendre dans cette histoire. La presse déchaîne parce qu'une de ses filles meurt, donc il faut absolument qu'elle réagisse. Pas question d'aller trouver les flics pour enquêter. Ils se tournent vers un couple, genre Holmes-Watson, mais là c'est Oscar Wilde et un anarchiste italien. Donc Oscar Wilde est mis en scène avec pas mal de talent. Beaucoup de travail aussi sur les argots, l'ouchbem, javanais. Voilà. Une chronique est assez intéressante qui m'a donné pas mal de satisfaction comme éditeur. Et puis le quatrième, c'est Araga qui m'a donné pas mal de satisfaction aussi, puisqu'il a gagné le prix du Marseillais du Polar de la Semaine Noire, la fête du plateau. Alors lui, c'est un Espagnol, né à Tanger, donc qui parle français comme vous et moi, mais qui a décidé d'écrire en espagnol et qui a fait un bouquin sur les haragas. Les haragas, c'est les qui brûlent leurs papiers, à qui on fait brûler plutôt leurs papiers. Alors là, ça se passe au Maroc. Ils doivent passer le détroit. Et son personnage, son héros, lui, ne veut pas faire cet itinéraire, ce voyage terrible qui presque toujours, enfin souvent, finit très mal, avec la noyade ou... Et il décide de partir dans des conditions beaucoup plus confortables, dans un réseau complètement tenu par la police marocaine, la police espagnole, un réseau de corruption absolue. Quand il débarque en Espagne, il s'aperçoit qu'il a mis le doigt dans un engrenage terrible et que c'est aussi, il collabore dans quelque chose qui fait aussi de la traite d'êtres humains. Donc il a quand même des principes, une éducation, il va faire tout sauter. Et il raconte son histoire de sa cellule. Et le romancier raconte aussi l'histoire. Donc il y a deux voix en quelque sorte. Voilà. Voilà. Et puis je vais publier à partir du mois de janvier un autre livre de Juan Hernández Luna, qui est un livre qui s'appelle Iode, qui est un livre très, très dur, très violent, sur un tueur en série extrêmement cultivé, dont la mère est une... guérisseuse, un peu sorcière. Ça se passe au Mexique. Elle blanchit aussi l'argent de la drogue. Et puis aussi un autre livre d'un Uruguayen qui lui alors devient un tueur en série, mais par la force des choses, parce que quand il passait normal, l'auteur a très bien mêlé le problème de l'euthanasie et de la dureté de la société d'aujourd'hui, même à Uruguay. Donc ce jeune homme qui vivait tranquillement avec sa maman, qui était peut-être un adolescent un peu attardé, ne supporte plus de la voir souffrir et il la tue. Il s'aperçoit très vite qu'il ne peut rien faire sans elle, donc il va avoir toutes sortes de problèmes, des problèmes tout bêtes, mais qui pour lui sont insurmontables. Et finalement, compte tenu, c'est très bien fait par l'auteur, de la pression... comme on dirait dans d'autres expressions sociétales, il se trouve obligé d'éliminer les gens. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a, c'est tout à fait réussi comme critique de notre société, c'est qu'il y a un happy end. Ouais. Voilà.
À l'air livre, Pascal Jourdana,
Jacques Aubergy.
Alors on voyage beaucoup là parce que on n'est pas uniquement en Amérique latine d'ailleurs, parce que il y a aussi un peu de Maroc.
Oui, bien sûr.
Donc ça montre aussi votre côté nomade peut-être.
Oui.
Voyageur en tout cas.
Oui, voyageur certainement. Oui.
Et curieux.
curieux, nomade, voyageur, oui, mais pas que sur Internet, quoi. En allant chez les gens. L'idée de cette collection, de cette maison d'édition, c'est peut-être plus que le noir, la bonne littérature. C'est ce terme qui a disparu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en français, et qui existe, qui est l'idiosyncrasie. Et qui est très, très utilisé en espagnol, je ne sais pas en anglais, mais totalement en espagnol, qui est à mon avis très clair. Mais je comprends qu'avec la globalisation et la mondialisation, et les efforts de rationalisation et simplification extrême dont on est victime chaque jour, ce terme disparaisse. C'est justement ce qui fait la différence, la richesse, la spécificité d'un pays, d'un peuple, d'un endroit, d'une ville, d'un quartier. Et moi, ce qui m'a intéressé justement dans la littérature, enfin ce qui m'intéresse dans la littérature que je veux publier, ce que je cherche à publier, c'est ça. C'est de parler, de faire parler plutôt par l'écrivain de personnages, d'endroits qu'ils ne connaissent, que le lecteur ne connaît pas, découvre en quelque sorte. La littérature doit être une découverte. Et en même temps, essayer de remuer, sinon secouer un peu sa conscience qui, par la force des choses et à son corps défendant, est pas mal engourdi aujourd'hui, télé, radio, internet, etc. Donc, je pense que cette littérature qui part d'une certaine réalité, les latino-américains savent très bien faire ça, mais en même temps, déboucher sur le fantastique, sur le surréel, l'invraisemblable, qui chez eux est souvent d'ailleurs fait partie du quotidien, ça a un intérêt. Et je crois que le lecteur européen, qui est souvent un lecteur comme l'est la population vieillissant, a besoin d'être rajeuni, donc ces écritures, ces littératures-là vont lui permettre de rajeunir beaucoup mieux que s'il va chez le chirurgien esthétique.
Vous trouvez que l'éditeur, de ce point de vue-là, a un petit rôle à jouer, un rôle social?
Ah oui, non, je pense qu'il a un rôle, à mon avis.
Un petit ou un grand?
À mon avis, il a son rôle, quoi. À mon avis, les deux rôles principaux qu'on oublie toujours dans la chaîne du livre, c'est l'auteur et le lecteur. Hein. C'est quand même les personnages principaux. L'éditeur, bien sûr, l'éditeur, il doit donner au lecteur une habitude. Il faut que le lecteur sache que chez cet éditeur, il va trouver ça. Je ne dis pas la matière, je ne dis pas toujours la même chose, mais je pense plutôt là à la qualité, pour aller vite, hein, à la richesse en quelque sorte. Je ne veux pas dire qu'il faut que ça soit toujours du noir, toujours du gris, toujours du blanc, toujours de la poésie, toujours du Maroc ou toujours de la Suède, mais qui est une espèce de recherche, pas de nouveauté, d'innovation, on s'en fout. Je vais publier en février un livre absolument fondamental dans la littérature latino-américaine qui s'appelle Los Albaniles, ce que je ne vais pas traduire d'ailleurs, c'est les maçons, les manœuvres, les maçons, les gens qui travaillent dans la construction. Enfin, les maçons en français, c'est devenu très très gêné, enfin, c'est devenu, ça peut avoir plusieurs sens, et donc j'ai préféré regarder le nom en espagnol. C'est un livre absolument remarquable qui se passe, qui a été écrit en 1967, qui a eu un prix, le premier prix Planeta, qui est un des prix les plus importants de la littérature espagnole. Et ce livre n'a jamais été traduit. Je veux dire, c'est du niveau de García Márquez, de Fuentes, de Rulfo, mais bon, pour toutes sortes de raisons, comme d'autres auteurs d'ailleurs, cet auteur-là, qui n'a pas fait que de la littérature et du roman, il a fait du cinéma. D'ailleurs, ce roman a été porté à l'écran avec un grand succès, l'auteur était co-scénariste, je crois que c'est un des premiers ours de Berlin. Il n'a pas été, disons, considéré comme, vous savez, le boom, on pourrait en parler, c'est comme tous les mouvements, c'est un peu artificiel. Et voilà, donc je me suis dit, il faut que ce livre, que les lecteurs français connaissent ce livre qui est un véritable monument. C'est quoi ce livre? C'est la vie d'un chantier à partir d'un crime. Alors, c'est pas du tout un polar, c'est pas du tout un roman policier. Évidemment, ça pourrait l'être, mais le génie de l'auteur, le véritable miracle littéraire, c'est qu'il ne fait pas un roman policier. il se sert d'un crime, le veilleur de nuit, enfin le gardien, on appelle ça le velador, qui est un type très particulier, de très mauvaise vie, il se drogue, il boit, il court la gueuse, enfin bon, il essaie de dévoyer les jeunes du chantier, est tué. Et il va raconter l'enquête. Et à partir de l'enquête, il va raconter tout ce qui se passe sur le chantier, les mœurs, les petites histoires d'à côté, la façon dont la police y prend pour faire son enquête, l'aptitude du patron, du propriétaire de l'entreprise de construction. C'est un roman qui a, en plus, qui sur le plan de l'écriture, louche un peu, évidemment à la mexicaine, puisque c'est l'époque, vers le nouveau roman. Donc une écriture, une littérature qui n'est pas tout à fait classique de ce qu'on pourrait. C'est pas du García Márquez, c'est pas du Cortázar. Voilà. Voilà, c'est une façon de répondre à votre question.
Dernière chose, peut-être, ce parrainage, cette amitié, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Paco Ignacio Paibodos, ouais. Qui est là un petit peu en filigrane aussi dans cette collection, qui est très bien représentée dans la livre.
Oui, alors, Taibo, c'est un personnage que j'ai rencontré très tard, 3-4 ans avant mon départ, donc grâce à Juan Hernández Luna, qui est l'écrivain mexicain que je découvre pour les cahiers, et qui me dit, mais bien sûr, je le connais comme auteur, mais je le connais pas personnellement. Et puis on a eu une espèce de... Allez, je crois que là aussi, ce sont des choses qui existent encore, quand les gens se rencontrent, il y a une sympathie qui se dégage ou pas. Et là, ça s'est produit comme ça. Donc, on a presque tout de suite décidé de devenir amis. On avait compris. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait qu'on... Et je lui ai parlé de ce projet. Mais bon, je lui dis, voilà. Il me dit, écoute, parce que Taibo est un type comme ça. C'est qui lui part. Utilise les deux, alors que les deux coups, il part pour le coup. Coup de chapeau et coup de cœur. Et il me dit, ouais, c'est très bien. Ben écoute, si tu veux que je fasse, je dis, mais je veux que tu fasses, moi, si tu veux faire une prévue. Et Juan, il dit, pourquoi tu ne serais pas conseiller littéraire? Ah ouais, d'accord, bon, voilà. Et ça s'est passé comme ça, et ça est devenu comme ça, et il est devenu conseiller littéraire. Alors, on a quand même mis des choses au point, mais vous savez, il est très libertaire. Il n'est pas anarchiste, mais très libertaire, le père Taibo. C'est très particulier. Par exemple, il n'était pas du tout d'accord pour qu'on publie le livre de Juan sur l'écrivain, parce que c'est pas du... Bon, mais on l'a quand même publié, c'est pas grave. Quoi. Et de temps en temps, on lui demande ce qu'il en pense, et il dit oui, je suis d'accord. Et il fait même des préfaces. Alors, il y a une anecdote avec le livre de Sébastien Rutès. Il a fait la préface du livre de Sébastien Rutès alors qu'il ne lit pas le français. Et quand on lui a proposé ça, il a explosé. Il a dit, vous prenez pour qui? Enfin, c'est jamais la vie, vous voulez pas que je crie. Et puis, c'est Sébastien qui lui a proposé, je n'avais pas eu le courage. Et puis, je le revois plus tard, je lui dis, il me dit, alors, qu'est-ce que cette histoire, Sébastien? Il me dit, tu veux que je fasse la préface? Bah, je lui dis, ouais, j'ai pensé à ça. Il me dit, mais attends, je lui dis, écoute, tu l'as pas lu le livre, mais depuis qu'il t'en parle, c'est comme si tu l'avais lu. Ouais, non, enfin, écoute, mais je lui dis, tu en as parlé 50 fois, même toi qui lui a dit, fais plutôt celui-là qu'un autre, parce que c'était trop compliqué, tu lui as dit, non, au contraire, c'est compliqué, fais-le, il t'en a parlé, il te l'a raconté, tu le connais. Bon, et puis il me voit, quelques temps après, il me dit, bon, alors la préface, tu la veux pour quand? Et voilà. D'ailleurs, il écrit dans la préface que c'est la proposition la plus insolite qu'on lui avait jamais faite. Donc, il écrit pour tous les volumes qui paraissent une espèce de présentation, un coup de feu, comme on appelle ça en traduisant littéralement en espagnol, le balazo, un chapeau en quelque sorte en français. Voilà exactement le roman que j'ai très envie de lire et d'écrire en ces temps d'incertitude et de doute. Alors, c'est quoi ce roman? Comme il dit qu'il est de plus en plus attiré comme lecteur et écrivain par les expériences qui mènent au roman total. Je veux aller à la rencontre du roman fleuve, grossi par de multiples affluents, hybride, parce qu'ouvert à tous les genres, né évidemment de toutes sortes de métissages, forcément baroque dans la structure narrative, tout en faisant la part belle à l'anecdote, et qui préfère à l'expérimentation du langage le canevas du couturier qui unit et assemble son fil invisible. Un roman qui, tout en conservant la tension du noir dans l'intrigue et le noyau dur, s'approprie le grand roman d'espionnage, le roman historique et le feuilleton avec ses milliers de trames souterraines. Il a la capacité de divulgation de la science-fiction et le souffle grandiose du roman d'aventure du XIXe siècle. il sera toujours, bien sûr, charpenté par une proposition inédite, le pouvoir de surprendre et l'épaisseur de la construction des personnages. Voilà.
Ça pourrait être une longue devise, peut-être, même de votre propre parcours.
Je ne suis pas arrivé pour le moment à résumer.
Ben merci beaucoup, Jacques Auberge. Merci. Puis, bon vent à cet hiver. Et puis, on attend ces nouveaux titres qui vont arriver bientôt chez vous. Et puis,
merci infiniment.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Voilà cette émission à l'air libre avec Jacques Auberge, directeur des éditions Latinoir et de la librairie Les Cahiers à Marseille, se termine. Vous trouverez des références supplémentaires, des indications bibliographiques par exemple des livres cités, les adresses internet de Les Cahiers et de Latinoir sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org, sur la page à l'air libre. Merci et au mois prochain.
Mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma.